pas des plus grands, sinon le plus grand problème philosophique, théologique de toutes les époques. C'est le soi-disant problème du mal. Alors, je vous présente ce problème dans sa forme la plus crue, et nous allons passer au travers certaines étapes dans notre engagement à mieux comprendre, mieux cerner, disons, la chose. Tout simplement, le problème du mal est le suivant. Si nous admettons que le mal existe dans ce monde, et il est très difficile de ne pas admettre que le mal existe, alors comment est-ce que le mal peut exister si Dieu est bon et parfait et tout-puissant? Parce que, puisque Dieu est parfait, sa création doit être parfaite. S'il est tout-puissant, il peut réaliser tout ce qui est toute sa perfection. Et s'il est bon, il est bon, alors il ne souhaite pas le mal. Donc, s'il a du mal dans le monde, ça veut dire quoi? Que Dieu a choisi de mettre le mal dans le monde. Alors, est-ce qu'un Dieu qui a délibérément, qui aurait pu éviter le mal, mais qui a choisi de mettre le mal dans le monde, est un Dieu vraiment bon? Est-ce qu'un Dieu qui aurait évité le mal dans le monde, pourquoi un bon Dieu aurait délibérément créé un monde où il a le mal? Maintenant, logiquement, il y a une façon de répondre à cela. Enfin, le premier philosophe qui a vraiment fait face directement à cette question, c'était Leibniz. Donc, tous les autres philosophes ont parlé un peu autour de ça, mais c'était un problème un peu trop gros pour résoudre, et même les grands théologiens de l'Église catholique comme Thomas d'Aquin n'ont pas osé vraiment faire face complètement à ce problème. Leibniz, la réponse de Leibniz, c'était de dire que le mal, il n'y a pas de mal dans le monde. Effectivement, Dieu est parfait. Effectivement, Dieu est bon. Effectivement, Dieu est tout-puissant. Conclusion logique, il ne peut pas y avoir de mal dans le monde. Puisque Dieu est parfait, la création est parfaite, ce monde, dit Leibniz, est le meilleur de tous les mondes possibles. Ça, c'est le fameux dire dont Voltaire se moquait. Ce monde est le meilleur de tous les mondes possibles, parce que si c'était possible de faire un monde encore meilleur, un Dieu parfait et tout-puissant aurait certainement fait un monde meilleur. Alors évidemment, si logiquement c'est satisfaisant, ce n'est pas quand même très satisfaisant du point de vue de notre vécu, n'est-ce pas? Parce que d'abord, c'est évident que la souffrance existe, et que la souffrance est enchâssée dans la structure du monde. L'exemple le plus évident de cela, c'est la douleur de l'enfantement. C'est-à-dire, on peut parler de la maladie, ben on peut guérir les maladies et tout ce que vous voulez, mais enfin, voilà la création des nouvelles vies, enfin la propagation de l'espèce, se fait dans la douleur. On ne peut pas contourner ça. Dieu a créé le monde de façon qu'il y a de mal, de souffrance, disons, enchâssé. Maintenant, on peut quand même répondre, ok, il a la souffrance, mais la souffrance, on n'a pas le droit d'identifier la souffrance au mal. Peut-être la souffrance est bonne, et c'est simplement que nous ne voyons pas à quoi ça sert la souffrance. Donc, l'existence même de la souffrance n'est pas en soi une preuve que le mal existe. Mais, il y a un deuxième élément qui semble conclure la chose de façon évidente. Même si on admet que la souffrance naturelle comme l'enfantement n'est pas le mal, il y a quand même l'injustice dans le monde. Et ça, c'est évident. Comment on peut faire, disons, on peut admettre que l'abus sexuel des enfants, les meurtres crapuleux, enfin, l'abus grossier des enfants, etc., etc., que toutes ces injustices, ou simplement les injustices du genre qu'il y a certaines personnes, on voit très bien, qui ont une vie facile et tout ça, ils ont toutes les commodités, et d'autres personnes vivent enfin, dans des conditions horribles dès leur naissance, enfin, comme en Afrique où il y a la famine, ou je ne sais pas où, n'est-ce pas, en fait. Nous voyons que il y a des peuples entiers, enfin, qui souffrent énormément, et donc toute la vie est un fardeau dès le début jusqu'à la fin. Donc, si nous regardons donc la condition de ce monde, on est obligé de dire qu'il y a de l'injustice dans le monde. Et même si on veut à la rigueur dire qu'il n'y a pas d'injustice naturelle, il y a quand même de l'injustice dont l'homme lui-même est l'auteur. C'est-à-dire, l'humanité de l'homme envers l'homme, ça existe. Ça existe, et ça c'est indéniable. On a qu'à lire les manchettes des journaux tous les jours. On regarde toutes les horreurs qui se font dans le monde. Il n'y a pas de doute que l'homme est capable de faire le mal. Alors, comment est-ce qu'on résout ce problème. Alors, je vous donne tout de suite la réponse Baha'i à cette question, et puis je vais ensuite élaborer la réponse. Leibniz avait presque raison. Ce monde est le meilleur des mondes possibles pour les buts que Dieu fixe pour ce monde. Mais ce monde n'est pas le seul monde. C'est-à-dire, la foi Baha'i est d'accord avec la chose suivante. Abdu Baha'i explique très clairement. S'il n'avait pas la vie immortelle de l'âme, s'il n'avait pas d'autre monde, s'il avait juste ce monde-ci, matériel, et rien d'autre, alors on ne peut que conclure que Dieu est le diable. Okay? C'est-à-dire, il n'y a pas de justice dans les résultats dans ce monde. Ça, c'est évident. Donc, s'il n'y a pas un autre monde où les injustices sont récompensées, etc., il est impossible de réconcilier un Dieu bon et tout-puissant avec l'état de monde, ce monde-ci. Et donc, c'était ça que Leibniz a essayé de faire, et évidemment, c'était extrêmement difficile. Mais, quand on ajoute cette nuance, c'est quand même très important. À savoir que ce monde est le meilleur monde pour les buts spécifiques que Dieu a fixés pour ce monde. Et quel est ce but? C'est de nous préparer pour la vie de l'au-delà. C'est-à-dire que la foi Baha'i fait une analogie suivante. Comme la vie qu'on avait dans la matrice de notre mère pendant 9 mois n'avait pas un but en soi. Il avait un but de nous préparer pour l'entrée dans ce monde. Alors, si on peut imaginer des habitants de la matrice qui se parlaient entre eux et qui posaient des questions théologiques et philosophiques, ils devraient dire, mais ce monde, qui est quand même un bien piètre monde, c'est noir, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de... c'est obscur, c'est petit, enfin, etc., etc. C'est-à-dire, on pourrait très bien imaginer qu'on pourrait faire le procès de ce monde dans la matrice, et pour conclure, si c'est tout ça, si cette vie que nous avons, et qu'est-ce qu'on fait? On lutte tous les jours pour croître, n'est-ce pas? On doit développer à chaque jour des nouveaux organes, des nouvelles cellules et tout ça. Donc on lutte, on travaille comme des fous. Et pourquoi? À la fin, on meurt. Parce qu'on voit qu'à la fin, vers 9 mois à peu près, les gens sortent, enfin ils meurent. Et puis donc, on lutte pour développer tout un corps, et puis ensuite, ça ne sert à rien, on est mort. Alors donc, on peut, je pense que l'analogie est quand même assez forte, ça montre très clairement que si le monde de la matrice était le seul monde qui existait, ça serait effectivement un enfer, ça serait effectivement une injustice. Mais nous pouvons comprendre les conditions dans la matrice par rapport à ce monde-ci, en sachant que, en comprenant, comme nous comprenons, que la vie dans la matrice de notre mère était une préparation nécessaire et utile pour qu'on ait une vie heureuse dans ce monde. Ou la possibilité, si vous voulez, d'une vie heureuse dans ce monde. Alors c'est exactement ce que la foi bahaï dit par rapport aux souffrances dans ce monde. Que ces souffrances peuvent être comprises seulement par rapport à l'autre monde. C'est-à-dire, comme les souffrances dans la matrice de la mère, en fait, tout le travail que, pour ainsi dire, que l'embryon doit faire pour croître, est compréhensible seulement par rapport au monde où il va. De même, toutes les souffrances et les luttes et les larmes que nous versons dans ce monde ont un sens par rapport à notre vie éternelle, c'est-à-dire notre développement spirituel. Dans la citation qu'on avait choisie pour ce soir est tirée d'un écrit d'Abou Baha qui dit « Le bien existe, le mal n'existe pas ». Alors comment est-ce qu'on peut réconcilier cette notion que le mal n'existe pas avec toute la souffrance qui est dans ce monde? Alors là on entre dans des considérations un peu philosophiques, mais je pense que c'est tout à fait à la portée de tout le monde. Abou Baha explique qu'il y a différentes sortes de différences. Ok? C'est-à-dire, il y a ce qu'on peut appeler des polarités et il y a des dualités. Et ce n'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est une polarité? Une polarité, c'est exactement comme le masculin et le féminin, par exemple. C'est-à-dire, la polarité, c'est la complémentarité entre des opposés égaux. Abou Baha donne l'analogie des deux ailes d'un oiseau. Que l'homme et la femme sont comme deux ailes d'un oiseau, l'oiseau ne pourrait pas voler avec un seul aile. Et ça fait deux ailes en équilibre pour que l'oiseau, c'est-à-dire qui est l'humanité en l'occurrence, puisse s'envoler. Et d'ailleurs, même du point de vue biologique, on sait par exemple que, vous savez que et l'homme et la femme ont toutes les hormones, toute la gamme des hormones. Mais il y a évidemment des hormones qui sont spécifiques au mâle et des hormones qui sont spécifiques à la femelle. Alors donc, mais malgré tout, par exemple, les femmes ont de testostérone, par exemple, et les hommes ont de l'estrogène dans le corps. Mais où je veux en venir, c'est le fait suivant, très intéressant. Il se trouve que la femme a exactement la même proportion de testostérone dans son corps que le mâle a de l'estrogène dans son corps. Et du point de vue hormonal, c'est une complémentarité parfaite et absolue. Chacun a ce que l'autre manque. Alors ça, c'est la complémentarité. Et d'une façon générale, on appelle ça la polarité. La polarité. Ce sont des différences où chacun existe. Où chacun existe. Alors, le problème du mal, le problème logique ou philosophique du mal, provient en partie de la confusion entre la polarité et dualité. Mais qu'est-ce que c'est la dualité? Qu'est-ce que c'est la dualité? La dualité, c'est l'existence versus la non-existence. Je donne, enfin, d'abord un exemple et peut-être un autre viendra à l'esprit. Regardons le monde physique. On parle de chaleur et froid comme des opposés. Okay. Mais l'opposé de chaleur et froid n'est pas du tout une polarité. Parce que la chaleur a une existence et le froid n'a pas une existence. La froid, c'est l'absence de chaleur. Maintenant, parfois il y a des gens qui disent « Pourquoi pas dire que la chaleur, c'est l'absence du froid, etc. » Ben, précisément parce que il y a ce qu'on appelle le zéro absolu. Le zéro absolu, c'est l'absence totale de chaleur. C'est moins 273 degrés Fahrenheit, n'est-ce pas?
Celsius.
Comment? Celsius, ok. Je pense, qu'est-ce que c'est Fahrenheit ou ça, peu importe?
C'est la même, en tout cas moins 18, là, fois un facteur. Là.
C'est ça, oui, ok, d'accord.
C'est
ok, donc moins 273 Celsius. Oui. Et puis cette condition a été approximée, enfin, dans des conditions laboratoires, c'est-à-dire nous savons très bien que l'absence totale de chaleur, il a tout mouvement brownien arrête, etc., etc., que c'est la mort, si vous voulez, du point de vue physique. Mais est-ce qu'il a un degré maximum de chaleur? Non, ça n'existe pas un degré maximum de chaleur, parce que tant qu'il est de chaleur, il peut toujours avoir encore de chaleur, n'est-ce pas? Vous pouvez prendre le soleil ou des étoiles plus grandes que le soleil, mais il n'y a pas, ça n'existe pas, même du point de vue logique, ça n'existe pas la notion de degré maximal de chaleur. Parce que la chaleur est une chose existante, et tant qu'il a de chaleur, il peut avoir encore de la chaleur. Donc, ce n'est pas une polarité, ce n'est pas l'égalité entre deux choses qui ont une existence égale, ce n'est pas l'opposition entre les existences complémentaires. Il n'y a pas de complémentarité entre le froid et la chaleur. Le froid, c'est l'absence de chaleur. Un autre exemple, évidemment, c'est la lumière et l'obscurité. Encore une fois, c'est une dualité, ce n'est pas une polarité. La lumière est une chose existante, nous connaissons sa vitesse, nous pouvons analyser son comportement, c'est une chose existante qui est composée de photons, etc., et qui se comporte d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'est l'obscurité? On ne peut pas analyser l'obscurité, c'est simplement l'absence de la lumière. Ce n'est pas une chose existante. Donc, Abdu'l-Bahá explique donc que le bien et le mal, c'est une dualité et non une polarité. Et quand il dit donc que le mal n'existe pas, ça veut dire que le rapport entre le bien et le mal est exactement le même qu'entre la lumière et l'obscurité, par exemple. C'est-à-dire que le bien est une force positive qui existe, qui a certaines qualités, et que le mal, c'est l'absence du bien. Donc, ça résout au moins une partie du dilemme, parce qu'on voit d'autres cultures, par exemple la culture hindou-bouddhique, qui nettement considèrent le bien et le mal comme une polarité et non une dualité. Ils disent, oui, ils disent bien sûr, Dieu a créé et le bon et le mal, il faut le mal, parce que le mal c'est le complément du bon et tout ça. Alors, c'est-à-dire que... Et ils vont dire, vous dites, mais voilà, si vous le confrontez avec le dilemme du problème de mal, vous dites, mais à ce moment-là, si Dieu est tout-puissant, Dieu est mal, parce qu'il a créé le mal. Oui, Dieu est mal, il a les polarités, il a le bien et le mal, comme il a le féminin, le masculin et tout ça. Alors oui, ça ne les dérange pas, ils vont absolument dire que oui, le mal, c'est une chose existante, qui est dans Dieu lui-même. En fait, c'est un peu comme Star Wars, n'est-ce pas, où la force a un côté positif et un côté négatif, n'est-ce pas, c'est le côté obscur. Alors, ça, c'est la vision hindouiste, si vous voulez, de Dieu, n'est-ce pas, la force, qui a un côté positif et un côté négatif. Alors, ça, c'est la vision d'une polarité. Ça serait une vision de dire que le bien et le mal, c'est une polarité. Que je ne peux pas avoir le bien sans avoir le mal, qui existe aussi. Je ne peux pas avoir Dieu sans avoir Satan, etc. Alors, ce point de vue-là est complètement rejeté par la foi mariée. Et évidemment, du point de vue logique, c'est aussi satisfaisant, parce qu'à ce moment-là, nous pouvons comprendre que le mal n'existe pas comme une force ou comme une entité, mais c'est simplement l'absence du bien. Alors, si ça c'est le cas, il faut quand même poser la question suivante, donc, quelle est l'origine, donc, du mal? C'est-à-dire, en supposant que Dieu a créé ce monde, d'accord, Dieu a créé ce monde en y enchâssant certaines souffrances, ok, comme l'enfantement, la douleur de l'enfantement, et comme la maladie, si vous voulez, mais je prends toujours la douleur de l'enfantement parce que c'est une chose positive, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la maladie, vous pouvez toujours dire, mais voilà, c'est une chose négative, on peut espérer un jour éliminer toutes les maladies, etc., si on mange bien et on se conduit bien, etc. Mais la douleur de l'enfantement, c'est vraiment un symbole du fait que la création est liée inéluctablement à la douleur. On ne peut pas contourner la douleur de l'enfantement. C'est pourquoi je l'utilise tellement comme exemple. Alors, le bien et le mal, c'est une dualité et non une polarité. Et vous pouvez dire, ok, Dieu a créé le monde avec une certaine souffrance, mais cette souffrance fait partie du but de Dieu. On voit que, par exemple, la douleur de l'enfantement est intense mais courte, et elle est suivie d'une très grande joie, la joie d'élever un enfant, d'avoir créé. Et même il y a des femmes, enfin on me dit, évidemment je n'ai pas fait l'expérience, mais il y a des femmes même qui disent en quelque sorte apprécier la douleur de l'enfantement parce que ça montre leur amour pour l'enfant, c'est-à-dire le fait qu'ils acceptent de passer par cette douleur, c'est une expression de leur amour, leur sacrifice, leur abnégation de soi pour donner vie à cet enfant. Donc, même pour certaines femmes, enfin, les femmes, je ne veux pas vous imposer des choses, mais sache qu'il existe des femmes qui disent même que tout qu'on fait, c'est un aspect positif de la chose, dans le sens que ça leur permet, ça leur donne le sentiment d'avoir vraiment fait quelque chose, n'est-ce pas? Qu'ils ont accepté de passer par cette douleur pour donner naissance à leur enfant, et ça augmente en quelque sorte la joie après. Mais la douleur, c'est la douleur fait mal, ça ne change pas le fait que la douleur fait mal, n'est-ce pas? Mais, comme je dis, on peut quand même comprendre que dans les douleurs naturelles, il peut y avoir une certaine sagesse profonde. Mais il y a quand même l'injustice. Alors, quelle est l'origine de l'injustice? Alors, là, l'explication que donne Abdu'l-Bahá et la foi Bahá'í rejoint l'explication qui a donné Saint Augustin et Thomas d'Aquin et d'autres théologiens et philosophes. Et c'est évidemment la question de libre arbitre de l'être humain. C'est-à-dire, et c'est la dernière grande idée que je veux passer, et je vais chercher mes mots pour pouvoir le passer le mieux possible. Bon, commençons avec l'exemple suivant. On peut comprendre comment un Dieu pourrait créer un être qui soit programmé pour faire juste du bien. Nous pourrions presque faire ça nous-mêmes avec des ordinateurs. On pourrait penser, créer un ordinateur qui fait juste des bonnes choses, enfin, à définir, mais quand même. On pourrait imaginer aussi que Dieu ait créé une espèce qui ne fait que du mal. Mais, dit Abdu'l-Bahá, le fait que chaque âme humaine a le potentiel de faire ou le bien ou le mal, librement, ça, c'est seulement un Dieu qui peut faire ça. n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça, ça c'est un mystère. Ça c'est le mystère de l'âme. Que chaque âme humaine recèle ce potentiel pour le bien et pour le mal. Évidemment, j'ai dit que le mal n'existe pas. Alors, qu'est-ce que, comme force, donc qu'est-ce que je veux dire quand je dis que l'âme, le cœur de l'âme, disons, recèle ce potentiel du bien et du mal. Alors voilà l'explication que donne Abdu Baha, comme je dis, qui suit quand même l'explication. Ça, c'était la partie du problème du mal qui a été le plus résolu, si vous voulez, par les théologiens chrétiens et musulmans et tout ça. Alors, s'il y a des conséquences objectives de nos actions, si on accepte que Dieu veut donner à l'homme un libre arbitre. Et pourquoi est-ce qu'il veut donner à un homme un libre arbitre? Parce qu'il a créé l'homme en son propre image. Et Dieu a un libre arbitre. Dieu est tout puissant. Il a une liberté. Alors, s'il voulait créer l'homme le plus possible dans son image, il ne pouvait pas faire ça sans doter l'homme, l'humanité, d'un libre arbitre, d'une liberté, d'une volonté. Maintenant, la volonté, c'est la capacité d'initier des actions, c'est la capacité d'agir. Il y a des conséquences objectives de nos actions. C'est-à-dire, certaines actions vont entraîner la souffrance des autres ou de nous-mêmes, certaines actions vont entraîner le bonheur de nous-mêmes et des autres. N'est-ce pas? Je peux agir, je peux choisir, si je veux, d'agir de façon qui va certainement vous faire mal. Je peux prendre un couteau, je peux vous insérer le couteau, n'est-ce pas? Si je veux vous faire mal, je peux vous faire mal, n'est-ce pas? Peut-être pas deux fois, mais une fois, avant que vous soyez averti que je suis un dérangé ou je ne sais pas quoi. Donc, et ça c'est une conséquence objective, c'est pas juste dans votre tête, dans ma tête, n'est-ce pas? Donc la cruauté, la torture, toutes ces choses qui malheureusement se font tous les jours, n'est-ce pas? Regardez la télé, je m'excuse, mais il n'y a pas de doute. Ces choses-là sont maléfiques et ce sont des conséquences maléfiques des choix libres des êtres humains. C'est des êtres humains qui imposent ces conditions sur eux-mêmes ou sur d'autres êtres humains. Donc, il a des conséquences de nos actions qui sont bonnes, si vous voulez, qui sont positives pour le développement de l'humanité, et d'autres qui sont négatives. Or, ça c'est une polarité. Ça c'est une polarité parce que le positif et le négatif est négatif par rapport à certains buts de l'être humain. Alors c'est vraiment le complémentaire du positif dans ce sens-là, n'est-ce pas? Je vous fais mal ou je vous guéris, etc., n'est-ce pas? Mais, on peut dire, ok, pourquoi Dieu a créé cette polarité, c'est-à-dire que certaines actions ont des conséquences, des bonnes conséquences et d'autres des mauvaises conséquences. Ben, quel est l'autre choix que Dieu aurait pu faire? Ben, il pourrait faire simplement que on a une liberté, mais toutes les conséquences de nos actions sont bonnes. À ce moment-là, c'est plus une liberté. C'est plus une liberté, c'est-à-dire que si les conséquences vont être positives, peu importe les choix que vous faisiez, n'est-ce pas? Alors, combien de temps est-ce que vous allez scruter les choix que vous faites? Pas beaucoup, n'est-ce pas? C'est comme on vous relâche dans un immense jardin où tout ce que vous faites vous procure encore un plus grand bonheur, peu importe si vous faites des gestes insensés ou autres, etc. Autrement dit, la liberté dont Dieu a doté l'homme a un sens moral seulement s'il a des conséquences positives et négatives des actions humaines. Autrement, la liberté humaine n'a aucun sens. Ce n'est pas une vraie liberté. Donc, on voit que nécessairement, logiquement, Une fois que Dieu a décidé de faire l'homme dans son image et de doter l'homme de liberté, nécessairement, Dieu devait créer le monde de façon à ce qu'il a des conséquences réelles des choix que nous faisons. Et certaines des conséquences vont être bonnes, positives pour nous, et d'autres négatives. Autrement dit, la capacité de faire du mal est nécessaire pour qu'on ait la capacité de faire du bien. Et pour raffiner la chose, ce n'est pas bien de faire du mal, mais c'est bien que nous ayons la possibilité, la capacité ou la possibilité, disons, de faire du mal est nécessaire pour qu'on ait la possibilité de faire du bien. Parce que s'il n'y a pas de différence de conséquences de nos actions, il n'y a pas de liberté, et puis ça finit là. Il n'y a pas de... Comme le tigre, par exemple, on ne parle pas du bien et du mal. Si le tigre tue et mange un autre animal, est-ce que c'est bien ou mal? Ce n'est ni bien ni mal. Parce que le tigre, simplement, est un sorte de robot biochimique qui exécute sa nature, n'est-ce pas? Il n'est pas responsable, il exprime simplement sa nature. Donc, la notion de bien et du mal moral n'a aucun sens dans l'absence de la liberté. C'est-à-dire, si vous ôtez la volonté, la liberté de choix, la notion de bien et de mal moral n'a plus de sens. Comme dans le cas des machines ou des animaux, etc. Donc, il est nécessaire qu'on ait la possibilité de faire du mal pour qu'on ait la possibilité de faire du bien, c'est-à-dire qu'on a une vraie liberté de choix. Donc, je résume ça, j'avoue que c'est un peu pour rechercher, mais je dis donc, il n'est pas bien qu'on fasse du mal, c'est-à-dire il n'est pas bien qu'on fasse des mauvais choix, mais il est bien qu'on a la possibilité de faire du mal, c'est-à-dire il est bien qu'on a la liberté de choix et donc on peut faire des mauvais choix. Parce que ça fait qu'on peut faire aussi des bons choix. Donc, ça c'est la réponse à peu près complète à ce problème du bien et du mal, c'est-à-dire au niveau métaphysique, si vous voulez, le bien et le mal, c'est une dualité et non une polarité. Donc, le mal n'a pas d'existence métaphysique, ce n'est pas une existence positive. Et le bien et le mal moral sont relatifs au choix des hommes. Et on pourrait espérer qu'il y a une limite du mal ou une limite du bien, mais il semble que non. C'est-à-dire que Abdu'l-Bahá dit que si l'âme humaine, si l'âme utilise sa volonté, si l'âme se tourne vers le monde matériel et vers son ego, l'âme peut descendre, il n'y a pas de limite à la descente de l'âme. Il dit l'âme devient pire que l'animal. Parce qu'après tout, le tigre, il tue pour manger. Le tigre ne peut pas mettre 6 millions de juifs dans des chambres à gaz, comme les nazis ont fait en Allemagne, n'est-ce pas? Ça prend de l'intelligence, ça prend de volonté. Ils ont planifié la chose, n'est-ce pas? Donc, aucun animal ne pourrait faire ça. Donc, on peut résumer tout ça dans le principe suivant. Chaque âme humaine, chaque cœur humain, si vous voulez, recèle le potentiel du plus grand altruisme et le sacrifice de soi, le sacrifice de son égoïsme, et en même temps le potentiel de la plus grande cruauté qu'il est possible de faire pour l'animal ou l'homme de faire. Okay? Chacune de nos âmes, chacune de nos âmes, votre âme, mon âme, chacune de nos âmes, en elle-même recèle ce potentiel de plus grand altruisme, de sainteté, si vous voulez, de sainteté, de tout ce que vous voulez, et en même temps le potentiel de la plus grande cruauté. Dernière réflexion. Le principe est important pour la raison suivante. Nous avons une tendance à dire que le mal est fait seulement par des mauvaises personnes. Et donc, si nous pouvons identifier qui sont les mauvaises personnes et les mettre en prison ou les tuer, eh bien, nous allons éliminer le mal. Alors, mais c'est la conception du système juridique que nous avons dans notre société. Il ne faut pas se leurrer, c'est la conception reçue du mal. On analyse, on a la criminologie. Je vous défie de me montrer la science qui étudie la bonté, n'est-ce pas? Ça n'existe pas, mais on a une science de la criminologie. On fait des catégories, des psychopathes, des sociopathes, tout ce que vous voulez, tout le profil des malfaiteurs, enfin. Et on pose la question chaque fois qu'on est devant un type, un tueur en série, ou je ne sais pas quoi, ils disent, mais qu'est-ce qui a fait qu'il a fait ça? Qu'est-ce qui a fait? Il n'est pas comme nous, enfin, nous n'aurions pas, certainement pas fait ça. Qu'est-ce qui a fait que lui, il a fait ça? Alors, mais vous voyez que si ce principe énoncé dans les écrits Bahá'í est vrai, c'est-à-dire que chaque âme a ce potentiel pour le bien et pour le mal, alors le mal et le bien est fait par les mêmes personnes. C'est nous qui faisons les deux. Et ce potentiel est en chacun de nous. Et bien sûr, il faut étudier et comprendre qu'est-ce qui permet à l'homme de faire des bons choix, des choix éclairés, et qu'est-ce qui fait que l'homme fait des mauvais choix. Mais ça, c'est tout à fait différent que de dire que le mal est toujours l'auteur d'un certain nombre de gens maléfiques, de gens mauvais, et que pour comprendre le mal, il faut examiner ces gens-là. Cette conception du bien et du mal qui est dans la foi Bahá'í a des implications profondes pour toute la société, pour toute l'organisation de la société. Alors voilà, j'ai terminé.